Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Flaubert les appelait ses bichons comme deux animaux de salon. Eux, ce sont les frères Goncourt, Edmond l'aîné et Jules son cadet. Ensemble, ils ont construit une carrière littéraire, partageant les mêmes goûts et les mêmes ambitions. Certains ajouteraient la même aigreur mordante. Nous allons parler de ce duo incontournable dans les réseaux parisiens de la seconde moitié du 19e siècle. Qui étaient-ils? Comment expliquer leur influence? Pourquoi peuvent-ils encore nous surprendre? Nous sommes donc en compagnie de Pierre Dufieff qui a signé leur biographie avec Jean-Louis Cabanès aux éditions Fayard. Il est professeur émérite de littérature à l'université Paris-Nanterre. Bonjour Pierre Dufieff.
Bonjour madame.
Alors cette année nous fêtons les 200 ans de la naissance d'Edmond de Goncourt, mais en réalité son nom est toujours associé à celui de son frère, comme s'ils étaient jumeaux. Pourtant, 8 ans les séparent. Quelle est cette relation étonnante entre ces deux frères?
Oui, alors effectivement, lorsqu'on parle des Goncourt, on parle des frères, hein, comme si constituaient une sorte de couple fraternel, durable, mais un couple qui n'est pas un couple dès le départ, comme vous le rappelez justement. Il y a un écart d'âge de 8 ans entre les deux. Ils ont eu des jeunesses tout à fait différentes, séparées. Jules a perdu son père très très jeune, alors qu'il avait seulement 2 ans. Edmond a connu assez longtemps son père, hein, qui l'a influencé, qui l'a éduqué. Ils ont fait des études chacun de leur côté. Ils ont eu des amis séparés. Et leur gémellité s'est construite en quelque sorte à la mort de leur mère. Hein, lorsque leur mère est morte, elle a eu un geste que Edmond va rappeler souvent et que Jules rappellera aussi. Elle a joint leurs mains, hein, et en joignant leurs mains, elle a scellé en quelque sorte une union post-mortem qui sera durable. Et ce geste les a tellement marqués qu'ils en ont fait leur ex-libris, hein, l'ex-libris étant la marque d'un auteur sur ses ouvrages. Et l'ex-libris des Goncourt représente des doigts joints. Donc cette union fraternelle a été constituée à la mort de leur mère. À la mort de leur mère, ils sont partis faire un long voyage dans le midi de la France, à pied ensemble, puis en Algérie. Et c'est là que tous deux ont commencé à peindre ensemble et surtout à écrire un carnet de voyage qui constitue leurs premières notes, leurs premiers écrits, les débuts de leur journal. Et cette fraternité, bon, exceptionnel, bon, a été tel que dans leur journal, les Goncourt racontent qu'ils font les mêmes rêves, qu'ils partagent, je dirais, de manière un petit peu surprenante, la même maîtresse, Maria. Ils écrivent ensemble leur roman, ils écrivent ensemble leur journal. Et après la mort de Jules, en 1879, Edmond de Goncourt écrira un livre qui s'intitule « Les frères Emgano », où il raconte la vie de deux clowns très, très, très unis, hein, deux frères encore, où il essaie de faire revivre, dans des figures de clowns, celles des deux écrivains qui se sont si tendrement aimés. Et donc la mort de Jules sera pour Edmond une rupture violente, cruelle, et on parlera d'ailleurs à son propos à ce moment-là du veuf d'Auteuil.
Comment écrivent-ils à quatre mains? C'est un procédé assez étonnant et finalement peu courant.
Oui, alors c'est un procédé qu'il est intéressant d'étudier, effectivement, et sur lequel, bon, on peut s'interroger. Les Goncourt écrivent à quatre mains. Alors, une main tient la plume. Hein. On se rend compte que dans la correspondance, hein, là où on a conservé les manuscrits, l'écriture de Jules domine. Hein. C'est lui qui écrit les lettres. C'est lui qui va écrire essentiellement le journal pendant la période des deux frères. Les romans sont en partie, alors pour les manuscrits qui ont été conservés, mais pour l'œuvre des deux frères, beaucoup de manuscrits ont été détruits. Là aussi, hein, les écritures alternent parfois, mais l'écriture de Jules domine. Alors comment procédait-il? Bon, il semble que Edmond était plutôt celui qui établissait le plan, c'était le constructeur de l'œuvre. Ensuite, ils rédigeaient ensemble, d'après ce qu'on peut supposer, chacun une partie, un chapitre, puis ensuite ils les mettaient ensemble, hein, ils se relisaient et ils essayaient de mettre ensemble l'écriture de chacun pour faire une écriture commune. Alors dans leurs premières œuvres, leur premier roman qui s'intitule En 18 est un petit roman fantaisiste et ils critiquent ce petit roman en disant qu'on y sent trop la disparité des styles. Et petit à petit, au fil de l'écriture et au fil de l'exercice, comme dans un orchestre, hein, ils vont en quelque sorte assortir leur musique, hein, et avoir un style qui devient un style commun. Alors lorsqu'Edmond est veuf, après la mort de Jules, on se rend compte que son style personnel apparaît peut-être plus sec, moins imagé, moins créatif que celui de son frère Jules. Ce sont des œuvres qui sont plus courtes, peut-être un peu moins poétiques, en tout cas avec moins de créativité verbale. Donc la comparaison de la manière des deux frères et celle d'Edmond Sol permet aussi d'établir la façon dont chacun rédigeait.
Est-ce qu'il y a une sorte d'émancipation d'Edmond à la mort de son frère ?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'émancipation d'Edmond. Il y aurait peut-être eu plutôt une tutelle d'Edmond sur Jules. Hein. Edmond était le grand frère. Jules était très fantaisiste, très créatif. Et Edmond, dans les romans ou dans la pièce de théâtre Henriette Maréchal, où il représente deux frères, un frère aîné, un frère cadet, se représente toujours dans cette position de l'aîné un peu trop sérieux, un peu dirigiste, hein, par rapport au jeune cadet, fantaisiste, plein de gaieté, d'humour. Edmond se représente comme un être sérieux, un peu austère, un peu ronchon, alors que Jules était beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusant. Donc ce rapport d'autorité fraternelle, paternelle, va plutôt dans le sens, je dirais, classique, hein, du grand frère au petit frère.
Quelle était leur ambition dans le domaine littéraire ?
Alors, leur ambition dans le domaine littéraire, dès le départ, dans leur correspondance, on trouve des remarques du style « nous écrivons pour être connus ». Il y a un désir, si vous voulez, de célébrité médiatique qui se manifeste dans leur tout début. Et puis ensuite, il y a, je pense, chez les Goncourt, un désir constant d'innovation, c'est-à-dire le désir de se renouveler, le désir de ne pas se répéter, le désir de créer des formes d'écriture nouvelles. Et je pense que c'est ça leur volonté essentielle.
Y sont-ils parvenus, selon vous ?
Je pense qu'ils y sont parvenus, effectivement. Lorsqu'on lit l'œuvre des Goncourt dans sa continuité, on s'aperçoit qu'ils ont pratiqué des genres très différents. Ils ont été historiens. Ils ont été historiens de l'art du XVIIIe siècle, ils ont été historiens, Edmond Sol en 91 et en 96, historiens de l'art japonais, ils ont été diaristes, ils ont écrit ce très long journal qui couvre la période 1851-1896, ils ont été romanciers, et romanciers, ils ont pratiqué des formes d'écriture extrêmement diverses, et ils ont été des initiateurs des grands courants que l'histoire littéraire ensuite a retenu, initiateur du naturalisme, Zola les reconnaîtra comme des maîtres, initiateur pour Edmond, avec ses derniers romans, de ce qu'on appelait la littérature fin de siècle, la littérature décadente. Donc ils ont joué un rôle manifestement important dans l'histoire littéraire, et on relit, leurs romans ont été, et leur journal ont été appréciés, je dirais, par les plus grands esprits de leur temps. Citons quelques exemples. Nietzsche aimait l'œuvre des Goncourt. Thomas Mann va rédiger ses romans inspirés, dans une certaine mesure, par le modèle des Goncourt. Marcel Proust pastichera les Goncourt. Ce sont des romanciers de l'image et des romanciers de la description qui vont aussi fasciner les artistes. Toulouse-Lautrec va peindre une série d'illustrations pour le roman d'Edmond de Goncourt paru après la mort de Jules, La fille Elisa. Degas va aussi tenter des illustrations pour les romans des Goncourt. Donc il y a véritablement une fascination des artistes pour l'œuvre des deux frères.
Alors pourquoi sont-ils tombés dans l'oubli avec le temps ?
Alors ils sont tombés dans l'oubli pour des raisons diverses. Ils ont été peut-être écrasés par la production massive de Zola. Ils sont tombés dans l'oubli aussi peut-être pour des raisons politiques. Les grands auteurs qui ont été promus sont des auteurs qui incarnaient l'esprit de la Troisième République, cet esprit de progrès, cet esprit de laïcisation. Or, les Goncourt sont conservateurs. Ils ont été parfois assez hostiles, en tout cas dans le cas d'Edmond, aux idéaux de la République laïque, parfois hostiles au progrès, parfois, assez souvent, ils ont tenu des propos misogynes. Donc, toute une série, si vous voulez, d'éléments idéologiques et politiques qui peuvent expliquer le relatif discrédit d'auteurs qu'on peut classer dans la catégorie, à certains égards, des antimodernes.
Ils vous font d'ailleurs penser à Baudelaire par certains aspects. C'est très présent dans l'introduction de votre livre, dans ce rapport ambigu à la modernité.
Oui, absolument. Ils sont à la fois fascinés par la modernité, dans la mesure où ils veulent créer une littérature moderne, une littérature nouvelle, une littérature inspirée du spectacle du monde moderne. Il ne s'agit plus de représenter l'Antiquité, il ne s'agit plus de représenter le passé. Donc il y a chez eux une hostilité manifeste au classicisme. Donc la modernité est au cœur de leur roman. On dépeint le Paris moderne, les couches populaires, des classes qui jusqu'alors n'avaient pas eu accès au roman. Mais d'autre part, sur le plan idéologique, il y a chez eux une réticence très très forte vis-à-vis de la modernité. Edmond Goncourt écrira une pièce qui s'intitule « À bas le progrès », dans laquelle, dans des termes assez comiques, il ironise sur toutes les découvertes modernes, le téléphone, les trains, bon, à vapeur à l'époque et à charbon, qui salissent, disait-il, les belles reliures blanches, les beaux vélins blancs des bibliothèques. Donc il y a chez eux, hein, chez lui en tout cas, et chez Jules aussi, hein, une distance par rapport à un progrès qui enlaidit, qui uniformise, une société capitaliste qui privilégie l'argent à l'esthétique. Donc il y a, je dirais, cette ambiguïté effectivement entre d'un côté une fascination pour le spectacle du monde moderne et de l'autre côté une réflexion qui met en distance la société contemporaine et en la critiquant.
Pour un lecteur contemporain, est-ce que vous auriez un de leurs livres, un de leurs romans à citer pour plonger justement dans cette thématique-là et entrer dans leur œuvre ?
Oui, alors moi je pense qu'il y a de très beaux romans des Goncourt qui se lisent bon, encore avec beaucoup de plaisir. Alors, Le Journal bon, est très, très important, hein, très massif. Une édition a été récemment faite par Jean-Luc Abanès en poche qui permet d'en lire des extraits significatifs. Et donc à ce niveau-là, je pense que Le Journal, par sa variété, par le spectacle qu'il nous donne de la littérature du temps, de la vie parisienne, bon, est extrêmement intéressant. Les Goncourt ont le sens de la formule, ils ont le sens d'une certaine méchanceté, ils ont le sens aussi de l'admiration parfois. Donc je crois que Le Journal est sans doute l'une de leurs plus belles œuvres. Il y a de très beaux romans. Germiny Lacerteux est un roman sur le peuple qui, je dirais, ouvre des voies tout à fait nouvelles. Hein. Et Zola y verra une œuvre absolument initiatrice hein, qui, pour lui, fondera ce qu'on a appelé ensuite, de manière peut-être un peu scolaire, le naturalisme. Ce roman contient de belles pages, de belles descriptions sur Paris. Un très beau roman que j'aime aussi beaucoup, qui est le dernier roman des deux frères, c'est Madame Gervaiset, un passionnant roman qui nous décrit Rome. Et lorsque on a l'occasion d'aller à Rome, relire quelques pages de Madame Gervaiset en parcourant Rome permet d'apprécier la qualité de style et la qualité des descriptions des Goncourt. Là aussi, c'est un roman qui est marqué aussi par l'idéologie d'une époque, un roman un petit peu anticlérical qui remet en question parfois la religion, mais qui contient d'admirables descriptions, d'admirables pages de prose descriptive et poétique sur la Rome à la fois antique et la Rome plus contemporaine.
Le style des Goncourt est aussi connu pour sa plume acerbe, hein, même si nous l'avons bien compris, on ne peut pas le réduire à cet aspect-là. Comment qualifieriez-vous leur ironie et ce côté mordant de leur écriture ?
Oui, alors le style, effectivement, bon, des Goncourt s'inscrit dans la tradition, dans une longue tradition de la littérature française, qui est le style des moralistes. C'est-à-dire ils ont le sens de la formule incisive, de la formule claire, à la manière de La Bruyère, à la manière de Chamfort, à la manière de Joubert, donc une tradition des moralistes qui étudie l'être humain en cherchant à le démasquer et en essayant de trouver derrière les bons sentiments la mesquinerie ou l'amour propre, comme le faisait La Rochefoucauld. Donc on démythifie l'homme, l'individu, hein, et on le démythifie justement par le sens, par des formules bon, incisives, très rapides. Hein. Les Goncourt ont publié en 1866 un petit ouvrage qui est un recueil de maximes ou d'observations tirées du journal qui s'appelle « Idées et sensations ». Et là, on voit vraiment pleinement s'exercer leur talent de moraliste, hein, dans le sens que j'évoquais, hein, le sens de la formule, le sens de la description, le sens du portrait aussi, du portrait parfois très cruel. Hein, ils représentent leurs contemporains, Georges Sand, constamment assoupi, hein, qui les fait penser à la vache à pisse, portrait de Renan, portrait de Maurice Barrès, beaucoup plus tard, dont ils observent au fil des mois le physique qui se dessèche de plus en plus. Donc des portraits des contemporains, portraits physiques, très, bon, parfois très réalistes, mais peu indulgents. Et capacité aussi chez les Goncourt très grande, lorsqu'ils font des portraits, quand ils décrivent, à sténographier, à reconstituer, à rendre, à restituer les conversations et les propos. les Goncourt sont très précieux. À une époque où le phonographe venait d'être découvert et n'était pas encore utilisé, nous connaissons par le journal des Goncourt les conversations, les propos, les tons de voix qu'ils notent aussi subtilement de tous leurs contemporains. Flaubert revit dans les pages du journal avec sa voix tonitruante et son sens de la formule. Il y a chez eux véritablement un art de la scénographie qui est tout à fait remarquable.
C'était donc des écrivains, mais aussi des esthètes sensibles à l'art. Vous avez évoqué leur passion pour le XVIIIe siècle. Ils s'intéressent également au Japon.
Oui, alors ils sont intéressés beaucoup au XVIIIe siècle, auquel ils ont consacré toute une série de monographies. Ils ont étudié les artistes du XVIIIe siècle, qu'ils ont rassemblés ensuite dans un ouvrage sur l'art du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle les fascine. Le XVIIIe siècle les fascine parce qu'il précède immédiatement la Révolution. Et pour eux, le XVIIIe siècle est le siècle qui a pratiqué une forme de beauté qui est pour eux la véritable beauté, c'est le goût du joli. Ce n'est pas le beau classique, c'est le joli qui apparaît, nous disent-ils, les mauvais instincts de l'homme d'une élégance, élégance du mobilier, élégance des toilettes des femmes, élégance des conversations. Donc il y a véritablement chez eux cette fascination pour le XVIIIe siècle. Ils vont consacrer ces pages donc, à l'art du XVIIIe siècle, mais ils vont consacrer aussi des monographies à de nombreuses femmes du XVIIIe siècle, des actrices, des cantatrices, Sophie Arnoux, La Clairon. Donc il y a chez eux ce désir de faire revivre une époque idéalisée parce qu'elle a précédé immédiatement ce traumatisme que constitue pour ces conservateurs un peu réactionnaires, la Révolution. Alors ils sont intéressés effectivement aussi beaucoup au Japon et ils ont voulu insister d'ailleurs sur le rôle de précurseur, de découvreur qu'ils auraient été de l'art japonais. Dans leur premier roman, en 18, petit roman fantaisiste que j'évoquais tout à l'heure, paru le jour du coup d'État du 2 décembre. Ils évoquent quelques objets japonais. À vrai dire, dans le roman, ce sont des objets chinois. Et ensuite, quand Edmond va rééditer l'œuvre, il en fera des objets japonais pour insister justement sur son rôle de précurseur et montrer qu'il avait très tôt
pressenti. Il construit sa légende.
Il construit sa légende. Il y a chez les Goncourt, manifestement, le désir de construire une légende de précurseur, précurseur du naturalisme, précurseur de l'art japonais, précurseur de la connaissance de l'art japonais. Donc il y a véritablement... Alors, on est dans une période de grande vogue de l'art japonais. Ils ont très tôt fréquenté les magasins d'estampes. Ils ont acheté très jeunes des estampes japonaises chez une marchande, Madame de Soie. Ils ont fréquenté des grands collectionneurs, Burti. Edmond va visiter les collections de Camondo. Donc il y a vraiment chez eux une curiosité de collectionneur. Et chez Edmond, il y aura aussi le goût du biographe. Il va écrire deux biographies d'artistes japonais, Utamaro et Okuzai, en 1891 et en 1896, à l'aide d'un japonisant, Hayashi, qui va l'aider en lui fournissant de la documentation qu'il n'avait pas, évidemment, lui-même. Edmond songera même, d'ailleurs, il ne le fera jamais, à faire, comme l'avaient fait ses grands contemporains, Guillemet et d'autres, un voyage au Japon. Et la chose ne se concrétisera pas.
Alors, vous avez étudié de près ces deux frères pour préparer cette biographie. Vous travaillez aussi à des éditions de textes. Qu'est-ce qui vous a finalement surpris en reprenant le fil de leur existence? Quelles découvertes avez-vous pu faire, vous qui les fréquentez depuis longtemps?
Les découvertes, finalement, si vous voulez, quand on approfondit la connaissance d'un écrivain, je ne dirais pas qu'on s'y attache de manière aveugle, on essaie de dépasser un certain nombre de préjugés. Les Goncourt sont très souvent réduits, et malheureusement réduits. On parle des Goncourt, ça a été le titre d'une biographie pleine de qualité, mais peut-être un petit peu rapide de Pierre Ménard. Les infréquentables Goncourt. Les infréquentables Goncourt, les Goncourt sont méchants, les Goncourt sont indiscrets. C'est vrai, mais je pense qu'on ne saurait pas les limiter à ça. Il y a chez eux, malgré tout, beaucoup d'autres choses. Il y a de la pitié, de l'empathie, de la pitié pour ceux qui souffrent. Il y a le désir exprimé d'aider le peuple. On les a considérés comme méchants, égoïstes, certainement. Mais quand on écrit son journal, on se révèle. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de diaristes qui apparaissent sous un jour idéalisé s'ils sont vraiment sincères. Et là, je rejoindrai un peu les Goncourt. La nature humaine est peut-être quand même pas toujours absolument aussi excellente qu'on pourrait l'imaginer ou que l'imaginent leurs critiques. Donc, la découverte, si vous voulez, de personnages dotés de beaucoup plus d'humanité qu'on ne pourrait le supposer. Alors, on les découvre aussi avec leurs limites. Leurs limites sont les préjugés d'une époque. C'est effectivement cette misogynie parfois un peu ressassantes, même s'ils ont consacré l'essentiel de leurs œuvres à des femmes. Leurs romans, leurs études historiques sont des études de femmes et de femmes victimes, pour lesquelles ils ont la plus grande compassion. Donc, je crois qu'il faut les redécouvrir avec cette dimension d'humanité qui est trop occultée par cette espèce de stéréotype qu'on leur accroche de vilains méchants médisants.
Eh bien, un grand merci, Pierre Dufieff, de nous avoir présenté ces deux frères Goncourt. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les frères Goncourt. C'est donc écrit avec Jean-Louis Cabanès aux éditions Fayard. Et nous fêtons cette année, c'est un anniversaire France Mémoire, les 200 ans de la naissance d'Edmond de Goncourt. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.